et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En disant cela, le Seigneur vous dit bienvenue. Il est content de vous accueillir dans sa maison. Et si vous voulez, le Seigneur vous offre les premières places. Si vous voulez les prendre, il y en a. Et on sait bien que les bouteilles, ça se remplit toujours par le fond. Hein. Mais on vient de chanter « Dieu fait de vous des hommes libres ». Alors restez libres. Nous avons la joie d'accueillir le Père Georges, qui vient du Burundi. C'est un prêtre Fidei Donum, c'est-à-dire qu'il est au service d'un diocèse, le diocèse de Nancy. Merci Père d'être venu jusqu'à nous. Nous sommes heureux aussi d'accueillir les jeunes, je crois, de Valette, voilà, qui ont longtemps accompagné les jeunes qui venaient en camp ici. Merci à vous de vous plonger dans vos beaux souvenirs de camp. Et puis, nous accueillons aussi la famille du frère Jean-Marie. Le frère Jean-Marie, voilà, il fête aujourd'hui son anniversaire. On lui souhaite un bon anniversaire. Voilà, merci à sa famille d'avoir pu se libérer ce dimanche. Et nous entrons dans cette célébration avec un cœur, j'allais dire, bien disposé, heureux d'être, voilà, se savoir se reconnaître comme enfant de Dieu et qu'il est content de vous savoir là et de se réjouir ensemble. Après le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
Tu consacreras Élisée, fils de Saphat, comme prophète pour te succéder. Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fille de Saphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, puis il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur.
Mon bonheur et ma joie, Dieu, mon bonheur et ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Dieu, mon bonheur et ma joie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon bonheur et ma joie.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi faire d'abord mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette période où il y a beaucoup d'ordinations. D'ailleurs, cet après-midi, il y a Thomas et Vincent qui seront ordonnés prêtres à la cathédrale de Laval. Hier, il y avait 14 ordinations à la communauté Saint-Martin, il y en avait 10 pour le diocèse de Paris, et il y en a un peu partout. Ce sont des jeunes qui ont fait un choix, ils ont réfléchi, ça a pris du temps. Mais quand on entend ces lectures aujourd'hui, on se dit, je crois que ça correspond bien à ceux qui ont fait cette démarche, bien sûr à nous tous, mais ça nous interroge quand même, ça nous interpelle. Parce que le langage est quand même assez direct. Et il y a une parole que je retiens pour commencer. Peut-être la reconnaîtrez-vous. Je bénis le Seigneur qui m'instruit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. C'est la parole du psalmiste. Je l'ai prise parce qu'elle relate une bénédiction et une fidélité. Bénédiction et fidélité du psalmiste qui du Seigneur a entendu un appel. L'appel de Dieu dans sa vie a répondu oui, et il est demeuré fidèle dans son engagement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu traversé des épreuves. Et n'y a-t-il pas là l'enseignement de ce jour consacré au Seigneur, le dimanche, c'est le jour du Seigneur? Appel et réponse ne sont-ils pas la trame des lectures de ce jour? Dans la vocation d'Élisée, Élisée, c'est quelqu'un qui était très occupé. Il travaillait les terres de ses parents, très occupé. Alors c'est drôle parce que le Seigneur, il vient chercher des gens qui sont occupés. Et au premier regard, il est bien question d'un choix qui se veut décisif de la part de Dieu par l'intermédiaire d'Élie. Prophète Élie, qui passe devant Élisée, et puis Élie prend son manteau et le met sur les épaules d'Élisée. C'est un symbole très fort, ça veut dire c'est un appel, un choix. Un choix qui a été dicté par Dieu à Élie pour lui succéder, Élisée. Mais mesure-t-on la radicalité de cet appel? Élisée est en plein travail, il laboure son champ avec sa paire de bœufs. Prophète Élie passe, s'approche en silence, jette son manteau sur les épaules d'Élisée. Celui-ci saisit le sens de cette investiture et il va faire un choix radical. Alors, il va commencer par répondre à un commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Il va quand même aller dire, faire ses adieux à ses parents et puis ensuite poser un choix radical. Il va sacrifier, voilà, ses attaches qu'il retenait à la ferme, sacrifie ses bœufs, son bien, prend congé des siens, se met à l'école d'Élie, le suit, le sert comme un disciple. Élisée a entendu un appel qui correspondait au fond à un appel intérieur, mais il fallait que ça vienne de l'extérieur. La vocation, c'est la conjonction d'un appel intérieur, mais qui a besoin de rencontrer un appel extérieur. Ça ne vient pas comme ça tout seul de l'extérieur, c'est qu'il y a une disposition qui est là, mais qui attend quelque chose, un déclic. Et du psalmiste, lui, qu'en est-il de sa vocation? Alors peut-être avez-vous remarqué, mais évidemment quand on chante, on est sensible à la musique, peut-être un peu moins au texte. Bien, avez-vous remarqué chez lui, il y a un triple mouvement d'âme qu'on a entendu dans le chant, mais c'est pas facile à saisir, il faut prendre le temps de lire, effectivement. Dans le passé, il a fait une option qui a engagé sa vie. Et il choisit le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, c'est toi ma part d'héritage qui porte mon destin. Pour lui, la vocation, ça a l'air d'être assez clair. Et dans le présent, il expérimente les extraordinaires avantages de ce choix. Il goûte les bienfaits de l'amitié de Dieu dans son cœur. Il y a comme une paix, une joie. Et il le dit, mon cœur est plein de joie et mon âme d'allégresse, je suis en confiance. Et ce n'est pas évident aujourd'hui d'avoir cette paix intérieure, cette confiance à travers tous les événements qu'on traverse. Et pour l'avenir, il pose un acte de foi. Il demande au Seigneur qu'il n'y ait pas de terme à son bonheur, que ça dure. Tu m'apprendras le chemin de la vie en présence de ta face. Alors le psalmiste a entendu l'appel, il a répondu oui, puis il demeure fidèle. Et saint Paul, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Bien, dans le passage de sa lettre aux Galates, alors les Galates, c'est les habitants d'une région peuplée de gens d'origine de la Gaule, des vrais Gaulois. D'ailleurs, saint Paul est assez dur quelquefois avec eux. À cela, il ne fait pas de mystère. Nous sommes tous appelés à vivre sous la conduite de l'Esprit Saint en homme libre. Alors, il propose soyez libres, c'est-à-dire. En fait, vous êtes esclavage de vos passions. Il dénonce trois lieux de combat qui sont, j'allais dire, tristement d'actualité. Le monde n'a pas changé. Qu'il y ait 6000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans, 500 ans, aujourd'hui, dans 500 ans, c'est pareil. Qu'est-ce qui change? Les modes, les coutumes, etc. Mais le cœur humain, dans le fond, est toujours le même. Les questions, les angoisses, que se posaient ces gens qui vivaient à l'époque de Paul bien avant, c'est les questions profondes du cœur. C'est les mêmes aujourd'hui. Le contexte a changé, c'est sûr. Et en premier lieu, il dénonce la licence des mœurs, cette chaîne de l'esclavage qui s'oppose radicalement à l'appel de Dieu à la liberté, parce que l'esclavage, ça enferme sur soi et ça maintient captif aussi des autres. Et deuxièmement, il leur dit, mais soyez attentifs, c'est-à-dire prenez garde. L'égoïsme renferme sur lui, divise, il mord, il dévore, il déchire et détruit. Et il s'oppose à la charité qui est un don de soi par amour. C'est l'opposé de, j'allais dire, du bénévolat, de la charité, etc. Et troisièmement, il leur dit, mais vous savez, la chair et ses convoitises, ça conduit inéluctablement à la mort et ça s'oppose à l'esprit de vie. Alors pour saint Paul, l'appel de Dieu doit correspondre à une réponse, j'allais dire, sans équivoque, qui s'épanouit dans la liberté, la charité qui a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Au fond, il dit, soyez logique par rapport à votre baptême. Et puis, il y a cette situation conflictuelle concrète dans l'Évangile. Vous l'avez entendu, c'est un peu chaud, hein? Quand Jésus, avec ses disciples, veut traverser un territoire, ils sont refoulés. On ne veut pas vous voir, partez, vous êtes indésirables. Alors, ça met tout de suite en tension. C'est-à-dire que le cœur de Jean et de Jacques n'est pas très en paix, et il répond à la violence par la violence. et dit à Jésus, ben écoute, fais donc descendre le feu du ciel, on va les détruire, le passage sera libre. C'est pas un peu ce qu'on pense quelquefois quand, vous savez, quand le cœur fait un quart de tour, une situation qui nous bloque, qui nous... et on réagit. C'est... Sainte Bernadette dit, attention, le premier mouvement ne vous appartient pas. C'est la nature qui parle. Mais le deuxième, oui. Et la deuxième, oui, c'est ça. Et donc, Jésus, en réponse, il s'oppose au tout, tout de suite. De Jacques et Jean, voilà, qui souhaitent le tonnerre, le feu, la foudre. On voit ce que ça fait quand ça tombe. Je suis allé dans un village voisin pour préparer un baptême. C'est à 15 km d'ici. Plus de la moitié des toitures sont détruites. Des voitures sont parties à la casse. C'est la fin du monde pour ces gens. Et dès qu'ils voient un gros nuage arriver, c'est le stress, c'est l'angoisse. C'est ça que souhaitent Jean et Jacques, vous vous rendez compte? Eh bien, ce peuple de Samaritains auquel Jésus a fait déjà du bien en la personne de la Samaritaine, vous savez, et son village, ainsi qu'en la personne du bon Samaritain. Et Jésus réclame patience et miséricorde devant l'échec. C'est la première condition. Alors figurez-vous qu'après la résurrection, quand il va y voir les premières missions, qui est-ce qui va évangéliser les Samaritains? C'est Jean et ses disciples. Alors qu'ils souhaitaient le feu. Et là, il va leur souhaiter un autre feu, celui de l'Esprit-Saint. Comme quoi, l'Esprit-Saint fait du travail de fond. Et donc la deuxième condition exigée par Jésus, c'est de sauvegarder la paix en respectant les personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter les actes commis, mais il faut faire attention aux personnes. La troisième condition est de ne pas perdre de vue l'engagement missionnaire, la finalité de la mission, qui est quand même pour le salut des pécheurs. Eh bien, à l'appel du Seigneur, la réponse dans la patience, le détachement et la vie missionnaire, est-ce que ça ne serait pas la clé de lecture de ce jour? Si l'on y regarde de près, tout ce que nous avons dit relève de l'ordre des moyens. Ce n'est que de l'ordre des moyens, des conditions, du comment, de l'effet. Or, tout est fait à une cause en vue d'une finalité. Et je crois que c'est là qu'il faut chercher la pointe de l'enseignement de ce jour. La cause prend sa source dans la première phrase de l'Évangile, dans la volonté du Seigneur dans une situation d'urgence. Il est dit ceci, « Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde. » C'est-à-dire que le plus grand désir de Jésus et son grand amour du Père, son retour vers le Père. Et pour ça, il faut traverser le territoire des Philistins pour aller vivre sa passion à Jérusalem. En même temps, il veut nous y conduire. Bien sûr, c'est lui qui vit la passion, mais c'est lui qui la vit, mais nous, on suit. Et il nous fait part de sa résurrection et de son Esprit-Saint. Il veut nous y conduire. Et pour entrer dans son royaume, il prit avec courage la route de Jérusalem. Pour nous, il faut du courage, c'est-à-dire une volonté ferme. Et qui est cette route de l'appel à le suivre pour nous mériter, par son sacrifice, de participer à la gloire du Père. C'est pour cela qu'il y a urgence à répondre à son appel pour le suivre sur ce chemin. Et nous en avons déjà l'annonce en la personne du prophète Élie en marche vers son enlèvement au ciel. Si le Seigneur lui demandait de choisir Élisée, c'est que lui-même, bientôt, il va partir. D'où l'urgence de l'appel d'Élisée, caractérisé par le manteau d'Élie placé sur ses épaules comme signe d'élection. Et Jésus nous a ouvert un chemin. Il est lui-même habité de l'amour du Père, parce que c'est l'amour qui est le moteur, hein. C'est pas autre chose. On fait les choses par amour, on les fait par amour et par devoir, parce qu'il faut le faire. Mais ce sont les deux moteurs de la vie, l'amour et le devoir. L'amour du Père, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, il s'est dépouillé de sa gloire, il en a fait le sacrifice. Il a cheminé sur terre dans la pauvreté et l'obéissance, en faisant le bien dans la patience et la miséricorde. Nous apprenons à connaître et à aimer notre Père du ciel, et ce faisant, répondre à son appel, partager et vivre son amour. Je termine. Ça va, je vous endors pas? Non? Ce choix de Dieu et son appel, il a retenti pour nous le jour de notre baptême. Vous vous en souvenez plus, moi non plus, mais on est marqué quand même. Hein? Et lorsque nous avons été revêtus du manteau blanc, vous savez, on demande à la marraine, après le baptême, de revêtir d'un manteau blanc. Puis au parrain, pour l'occuper, on lui donne la bougie, la lumière. Vous savez, il ne sait pas quoi en faire quelquefois, mais enfin voilà, c'est le manteau blanc. C'est le signe de notre appartenance à Dieu. Dieu, voilà, nous a revêtus de lui-même. Lorsque nous avons reçu l'onction du Saint-Crème, qui signifie la prise de possession par l'Esprit Saint, nous sommes marqués du sceau de l'appel de Dieu au plus profond de nous-mêmes, sur l'autel de notre cœur. Et vous comprenez quelle en est la conséquence. Elle demande un grand amour qui se reçoit du Seigneur et nous lie à lui. Nous lie à lui. Ce mutuel amour de Dieu pour l'homme et de l'homme pour Dieu est commencé dans la vie présente, justement par cette grâce sanctifiante du baptême, et trouvera sa perfection dans la gloire du ciel, dans la vision de Dieu, ce qui est objet de foi et d'espérance. Et aujourd'hui, l'appel de Dieu est en définitive la question incontournable de notre fidélité au Christ, qui se trouve posée à travers notre participation à l'Eucharistie dominicale. Si vous avez choisi de venir ici, c'est-à-dire pour communier à l'amour de Dieu dans l'Eucharistie, c'est que vous, dans le fond de vous-même, il y a une réponse, sinon vous ne seriez pas là. Le Seigneur vous attend. Voilà, il respecte votre liberté, mais c'est un devoir d'amour, de charité. Or, nous voyons aujourd'hui qu'il y a une lente anesthésie de la conscience qui s'empare de nos contemporains, de nombreux catholiques, qui se laissent emporter par la vague de la sécularisation jusqu'à renoncer aux exigences élémentaires de leur baptême qu'ils ont fait enfants de Dieu. Alors, pour terminer, que retenir? Suivre le Christ comporte trois caractéristiques. La première caractéristique est celle d'un attachement renouvelé dans la foi et l'espérance au Christ. La seconde caractéristique concerne le respect des personnes, créatures aimées de Dieu. La troisième est de se reconnaître enfant de Dieu, de se souvenir que nous sommes appelés à la vie éternelle en Dieu. Et nous avons un bel exemple avec Carlo Acutis. Vous savez, il y a une exposition dans le cloître. Moi, je vous invite, après l'Eucharistie, après la messe, à venir la visiter. C'est tout un jeune homme de 15 ans, touché par l'amour de Dieu, dont les parents étaient quand même assez loin de tout ça, et qui a, voilà, tellement attaché à l'Eucharistie, et qu'il a fait tout un travail de recherche sur les miracles de l'Eucharistie. Voilà. Alors, n'hésitez pas, après la messe, hein, voilà, venez la voir. Vous ne perdrez pas votre temps et on sera content. Et bien d'autres mots, suivre le Christ est un choix de liberté, de confiance en Dieu, à la suite de la Vierge Marie, dans le don d'elle-même, qui nous a valu un tel Rédempteur, en Jésus notre Sauveur. Amen.